Volume 2, section 15, au sujet de Quan Chi Yin et de Kuan Yin. Comme Avalokiteshvara, Quan Chi Yin a passé par plusieurs transformations, mais on se trompe lorsqu'on dit de lui qu'il n'est qu'une invention moderne des bouddhistes du Nord, car sous un autre nom il a été connu dès les temps les plus reculés. La doctrine secrète enseigne que celui qui est le premier à apparaître à la rénovation sera le dernier à venir avant la réabsorption, entre parenthèses pralaya. Par conséquent, les logoïs de toutes les nations, depuis le Vishvakarman védique des mystères jusqu'au sauveur des nations civilisées actuelles, sont le verbe qui fut au commencement, entre parenthèses ou au réveil des pouvoirs vivifiants de la nature, fermez la parenthèse, avec l'un absolu. Né du feu et de l'eau, avant que ceux-ci ne devinssent des éléments distincts, il fut le créateur, l'artisan ou le modeleur de toutes choses. Sans lui, rien ne fut fait de ce qui fut fait. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et l'on peut l'appeler, comme on l'a toujours fait, l'alpha et l'oméga de la nature manifestée. Le grand dragon de sagesse est né du feu et de l'eau, et tout sera réabsorbé avec lui dans le feu et dans l'eau. Comme l'on dit que ce bodhisattva revêt toute forme qui lui plaît, depuis le commencement d'un manvantara jusqu'à sa fin, bien que son jour de naissance spéciale ou sa fête soit célébrée selon le Qin Quang Ming King ou Sutra lumineux de la lumière dorée durant le 19e jour du second mois et que celui de Maitreya Bouddha soit célébré le premier jour du premier mois, les deux n'en font cependant qu'un. Il apparaîtra comme Maitreya Bouddha, le dernier des avatars et des bouddhas, durant la septième race. Cette croyance et cette attente sont universelles dans tout l'Orient. Seulement, ce n'est pas durant le Kali-Yuga, notre ténébreuse époque actuelle si affreusement matérialiste, l'âge noir, qu'un nouveau sauveur de l'humanité pourra jamais paraître. Le Kali-Yuga n'est l'âge d'or que dans les ouvrages mystiques de quelques pseudo-occultistes français. Note, voir la mission des Juifs. Fin de note. Il en résulte que le rituel du culte exotérique de cette divinité était fondé sur la magie. Les mantras sont tous tirés de livres spéciaux que les prêtres tiennent secrets, et l'on prétend que chacun d'eux produit un effet magique, attendu que celui qui les récite ou les lit produit simplement en les chantant une cause secrète qui se traduit par des effets immédiats. Quan Chi Yin est Avalokiteshvara, et tous les deux sont des formes du septième principe universel, tandis que, dans son caractère métaphysique le plus élevé, cette divinité est l'agrégat synthétique de tous les esprits planétaires, les Dian Shoan. Il est l'auto-manifesté, en un mot le fils du Père. Il est couronné de sept dragons, et au-dessus de sa statue, on lit l'inscription suivante « Put Si Kyun Ling, le sauveur universel de tous les êtres vivants ». Bien entendu, le nom que l'on trouve dans le volume archaïque des stances est tout à fait différent, mais Kuan Yin en est un équivalent parfait. Dans un temple de Puto, l'île sacrée des bouddhistes de Chine, Quan Chi Yin est représenté flottant sur un oiseau aquatique noir, entre parenthèses Kalahamsa, et déversant sur les têtes des mortels l'élixir de vie, qui au fur et à mesure qu'il coule se transforme en un des principaux Dhyani Bouddha, le régent d'une étoile appelée l'étoile du salut. Dans sa troisième transformation, Kuan Yin est l'esprit ou le génie qui anime l'eau. En Chine, on croit que le Dalai Lama est une incarnation de Quan Chi Yin qui, sous son troisième aspect terrestre, était un bodhisattva, tandis que le Teshu Lama est une incarnation d'Amitabha Bouddha ou de Gautama. On peut faire remarquer en passant qu'un écrivain doit en vérité avoir une imagination maladive pour découvrir partout un culte phallique, comme le font Mac Clatchet et Hardgrave Jennings. Le premier découvre les anciens dieux phalliques représentés par deux symboles évidents, le Qin ou Yan, qui est un membrum viril, et le Quan ou Yin, qui est le pudendum muliebre ou yom. Voir China Revealed, d'après la citation faite par Harvard Jennings dans son phallicisme. Une telle interprétation nous paraît d'autant plus étrange que Quan Chi Ying, entre parenthèses Avalokiteshvara, et Kuan Yin, Outre qu'ils sont maintenant les divinités protectrices des ascètes bouddhistes, les yogis du Tibet sont les dieux de la chasteté et ne sont même pas dans leur signification ésotérique ce qu'implique la version donnée par Rhys Davids dans son bouddhisme. Citation. Le nom d'Avalokiteshvara signifie le Seigneur qui regarde d'en haut. Quan Chi Ying n'est pas non plus l'esprit des Bouddhas présents dans l'Église, mais, interprété littéralement, il signifie le Seigneur qui est vu, et dans un sens, le soi divin perçu par le soi humain, c'est-à-dire l'atman ou septième principe immergé dans l'universel, perçu par Bouddhi, le sixième principe ou l'âme divine dans l'homme, ou servant d'objet à sa perception. Dans un sens plus élevé encore, Avalokiteshvara Quan Chi Yin, dont on parle comme du septième principe universel, est le logos perçu par le Bouddhi universel ou âme, comme étant l'agrégat synthétique des Dhyani Bouddha, et n'est pas l'esprit de Bouddha présent dans l'Église, mais l'esprit universel omniprésent manifesté dans le temple du cosmos ou de la nature. Cette étymologie orientale de Quan et de Yin ressemble à celle de Yogini, qui, nous dit M. Hardvard Jennings, est un mot sanskrit, prononcé yogi ou zogi dans les dialectes, qui est équivalent à sena et absolument identique à duti ou dutika, c'est-à-dire une prostituée sacrée du temple, adorée comme yoni ou shakti. Citation. Les livres de morale en Inde conseillent à la femme fidèle d'éviter la société des yoginis ou des femmes qui ont été adorées comme shakti. Fin de citation. Rien ne saurait nous surprendre après cela. Aussi laissons-nous à peine échapper un sourire en découvrant une autre absurdité énorme d'après laquelle Bouddha, B-O-U-D-H, serait un mot signifiant non seulement le soleil comme source de la génération, mais aussi l'organe mole. Max Müller, en traitant de fausses analogies, dit que le plus célèbre érudit en chinois de son temps, Abel Rémusat, maintient que les trois syllabes I, I-H-I, Wei, W-E-I, dans le 14e chapitre du Tao Te Ching, signifiait Jéhova. Et le père Amyo lui aussi était convaincu que les trois personnes de la Trinité pouvaient être reconnues dans le même ouvrage. Si Abel Rémusat l'a compris, pourquoi pas Hargrave Jennings? Tout savant reconnaîtra combien il est absurde de trouver dans Bouddha, l'illuminé et l'éveillé, un symbole phallique. Quan Chi Ying est donc, au point de vue mystique, le fils identique à son père, ou le logos, le verbe. Il est appelé le dragon de sagesse dans la stance 3, car tous les logoïs de tous les anciens systèmes religieux sont rattachés au serpent et symbolisés par eux. Dans l'ancienne Égypte, le dieu Nabkun, celui qui unit les doubles, était représenté sous forme d'un serpent se tenant sur des jambes humaines et étant avec ou sans bras. C'était la lumière astrale réunissant, par son double pouvoir physiologique et spirituel, l'humain divin à sa monade purement divine, le prototype dans le ciel ou la nature. C'était l'emblème de la résurrection de la nature, du Christ chez les zoophytes et de Jéhovah, sous forme du serpent d'airain qui guérissait ceux qui le regardaient. Le serpent était aussi un emblème du Christ chez les Templiers, comme on le voit par le degré de Templier dans la maçonnerie. Le symbole de Knouf et de Koum aussi, ou de l'âme du monde, dit Champollion, est représenté entre autres formes comme celle d'un énorme serpent ayant des jambes humaines. Ce reptile, étant l'emblème du bon génie et le véritable Agatho Daimon, est quelquefois barbu. Cet animal sacré est donc identique au serpent des Zoophytes, et il est représenté sur un grand nombre de pierres gravées, appelées pierres gnostiques ou basilidiennes. On le voit avec diverses têtes, d'hommes ou d'animal, mais sur les pierres où il est représenté, on lit toujours le nom Knoubis. Ce symbole est identique à un autre qui, selon Jamblique et Champollion, était appelé le premier des dieux célestes, le dieu Hermès ou Mercure chez les Grecs, dieu auquel Hermès Trismégiste attribue l'invention de la magie et la première initiation de l'homme dans cet art. Mercure, c'est Bouddha, la sagesse, l'illumination ou le réveil dans la science divine. Pour terminer, Quan Chi Yin et Quan Yin sont les deux aspects, mâle et femelle, du même principe dans le cosmos, la nature et l'homme, la sagesse divine et l'intelligence. Ils sont le Christos Sophia des gnostiques mystiques, le Logos et sa Shakti. Dans leur désir d'exprimer quelques mystères qui ne doivent jamais être tout à fait compris par les profanes, les anciens, sachant que rien ne pouvait être conservé dans la mémoire humaine sans l'aide d'un symbole extérieur, ont choisi les images, souvent ridicules pour nous, des Kuan Yins, pour rappeler au souvenir de l'homme son origine et sa nature interne. Cependant, pour ceux qui sont impartiaux, les madones en crinoline et les Christs en gants de chevreau blanc doivent sembler bien plus absurdes que les Quan Chi Yin et Quan Yin sous leur déguisement de dragon. Le subjectif ne peut guère s'exprimer par l'objectif. Par conséquent, puisque la formule symbolique essaye de caractériser ce qui est au-dessus du raisonnement scientifique et ce qui est souvent bien au-delà de nos intellects, il faut qu'elle aille au-delà de cet intellect, d'une manière ou d'une autre, sous peine de s'effacer de la mémoire humaine.